France Info.
France Info. Mercredi, le musée des Beaux-Arts de Berne, en Suisse, a annoncé avoir été choisi par un collectionneur allemand, Cornelius Gurlitt, comme héritier de toutes ses œuvres, 1400 au total, parmi lesquels des tableaux de maîtres volés par les nazis à des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour, Elisabeth Royer-Grimblat.
Bonjour.
Vous êtes galériste, historienne de l'art, et vous avez fait de la traque des œuvres spoliées pendant l'occupation, votre spécialité. Vous connaissez bien cette affaire Gurlitt?
Oui, je la connais bien.
Est-ce qu'on peut la résumer en quelques mots?
Alors, Gurlitt, le père de celui qui vient de mourir, a été un recycleur à partir des années 30 de tableaux spoliés. Il était aussi marchand. Et son fils a gardé la collection de tableaux à la fois achetés d'une façon normale et des tableaux achetés de façon illicite. Et ça a redéclenché en Amérique, en Europe, le sujet des spoliations qui avait été souvent
oublié pendant de nombreuses décennies.
Oui.
Alors effectivement, cet homme, Cornelius Gurlitt, c'est à l'occasion d'une enquête pour fraude fiscale, on va le voir, c'est assez fréquent, vivait au milieu de tableaux. Alors il y avait du Chagall, du Matisse, du Pissarro, du Renoir, tout ça autour de lui dans son appartement de Munich. Il est mort cette semaine, cet homme. Il venait de conclure un accord pour que ses œuvres, certaines volées donc, soient restituées à leurs propriétaires. Encore faut-il les identifier, ces propriétaires. Comment est-ce possible ? Si longtemps après, finalement, j'aime bien cet exemple, il est d'actualité, il est concret et il montre votre travail depuis 20 ans, c'est ça?
Oui, absolument. Alors comment retracer la trajectoire d'un tableau?
Oui.
C'est d'abord vérifier toutes les sources et les provenances. Quand vous avez une fiche dans un catalogue de vente ou de musée ou d'exposition, il faut vérifier. Quand on vous dit qu'un tableau a été exposé à la Kunsthaus de Zurich en 1933, par exemple, eh bien, il faut aller voir le dossier dans le musée, les fiches de prêt, les assurances, pour vérifier ce qui est écrit. Et en multipliant toutes ces démarches, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'oublis, parfois par méconnaissance et parfois pour occulter une provenance dérangeante.
Alors, c'est souvent, je le disais, à l'occasion d'enquêtes du fisc que des tableaux comme ça sont
oui.
retrouvés. Là, on en parle ce matin sur France Info, il y a ce Van Gogh.
À propos d'un Van Gogh, oui.
Voilà,
alors ce Van Gogh, on ne sait pas, est-ce que c'est un tableau qui est faux? Est-ce que c'est un tableau qui a été recyclé? Est-ce que c'est un tableau qui, simplement, pour des raisons de blanchiment, a été mis dans un coffre et attend? On ne sait pas.
Donc là aussi, il va falloir faire ce travail d'enquête, de fourmi pour trouver son origine. Sur l'authenticité des tableaux entre un faux et un original, avec votre expérience, vous voyez tout de suite la différence?
Alors, on ne voit pas tout de suite la différence, mais en regardant un tableau, la première impression, souvent, est la bonne. Et ensuite, on fait des recherches. Mais le plus important, c'est de regarder le tableau, de l'étudier, de regarder la matière, de comprendre la matière, de le comparer à d'autres tableaux de la même époque qui sont dans des musées. Et c'est ce qui se fait de moins en moins. Et c'est pour ça que l'affaire Beltracci, c'est pour ça que les Beltracci ont existé, ces faussaires allemands qui ont compris que plus personne ne regardait les tableaux
et
qu'en mettant des fausses étiquettes et en fabriquant des provenances, ils allaient pouvoir vendre des œuvres qui n'étaient pas authentiques et tromper tout le monde.
Elisabeth...
Donc la provenance, c'est important, mais il faut aussi regarder les œuvres.
Et avoir l'œil de l'expert, l'impression dont vous parliez.
Voilà.
Vous êtes diplômée d'histoire de l'art, c'était au début des années 80. Et tout de suite, vous êtes partie à Londres pour pister l'origine de ces œuvres. Alors vous parliez de catalogues, de magazines. D'où vous est venue cette obsession?
Alors, je suis partie à Londres pour faire des recherches à la Whit Library au Courtauld, parce qu'à l'époque, c'était un centre de documentation exceptionnel dont l'équivalent n'existait pas à Paris. Et j'ai toujours aimé rechercher ce qu'il y avait d'abord derrière les signatures qui n'étaient pas toujours les bonnes, et de regarder pas seulement ce que l'on voyait, mais de rechercher ce qu'il pouvait y avoir derrière, c'est-à-dire voir l'invisible, aller un peu vers cette curiosité des choses qui ne sont pas au premier plan.
Vous vouliez être détective quand vous étiez petite ?
Pas du tout.
Parce que ça s'apparente à ça, finalement, c'est un vrai métier de détective.
Oui, tout à fait.
Il faut préciser, et vous-même, vous le soulignez, je l'ai lu dans plusieurs interviews de vous, que vous n'êtes pas juive. Ce n'est pas une histoire familiale donc, qui vous a poussé à vous intéresser à ces tableaux spoliés.
Je le souligne, c'est Jean-Pierre Elgavache qui, le premier, m'a posé la question.
Oui.
Non, je ne suis pas juive, mais tous ces tableaux, en dehors de la spoliation de la Seconde Guerre mondiale, sont des histoires de famille. Et il révèle toujours autre chose.
Est-ce que vous vous souvenez justement de votre première enquête, avec qui c'était ?
Absolument. Ma première enquête, c'était avec les ayants droit du collectionneur Alphonse Kahn.
Et comment vous avez retrouvé les tableaux pour eux ?
Et avec Francis Varin, nous avons cherché des tableaux à la sortie du livre d'Hector Feliciano en 1996. Les ayants droit se sont aperçus, de familles spoliées, se sont aperçus que des documents, notamment au ministère des Affaires étrangères, pouvaient authentifier les propriétaires des tableaux déposés notamment dans les musées comme MNR. Et après, on s'est très vite rendu compte qu'en dehors de ces MNR, il y avait toutes les œuvres au passé flou, musées nationaux récupération. Ces 2000 œuvres dont on parle et dont Aurélie Filippetti, notre ministre de la Culture, a décidé d'aller à la recherche des propriétaires et de ne pas attendre que les héritiers se manifestent.
Alors effectivement, vous parlez de ces 2000 œuvres. À la fin de la guerre, il y a à peu près les deux tiers des œuvres qui ont pu être rendues, grâce à une commission, qui ont pu être rendues à leurs propriétaires. 2000 œuvres sont restées, elles ont été dispersées dans les musées, donc c'est celles-là dont il faut retrouver les propriétaires. En tant qu'amatrice d'art, est-ce que vous ne pensez pas que la place des tableaux est d'être justement dans les musées plus que dans des collections privées ?
Alors d'abord, ce ne sont pas seulement ces 2000 œuvres. Il ne faut pas oublier toutes les œuvres au passé flou, qui sont très compliquées à rechercher, puisque dans la plupart des musées européens, les inventaires ne sont pas à jour et le recollement n'a pas été fait. Mais rechercher ces œuvres, non, pourquoi elles seraient dans des musées ?
Elles ont eu des
propriétaires, mais à partir du moment où les œuvres sont dans les collections privées, elles circulent aussi, elles sont prêtées pour des expositions, elles sont parfois vendues. Et elles circulent peut-être davantage que quand elles sont dans des sous-sols de réserves de musées.
Vous avez, grâce à votre travail, pu ainsi restituer une trentaine d'œuvres à des familles spoliées. Vous avez souvent décrit l'émotion des héritiers, bien sûr, quand ils redécouvrent des œuvres qui étaient dans leur famille. Mais vous, vous êtes fière de retrouver une œuvre, d'arriver à déterminer son origine ?
Oui, on est toujours fière parce que c'est un combat. Et ce qui est important, c'est d'aller au bout du combat.
Elisabeth Royer-Grimblat, on va terminer cette émission par notre questionnaire femme d'exception. Quelle est la femme que vous admiriez lorsque vous étiez petite ?
Alors, quand j'étais petite, c'est la petite enfance. Donc, c'était Mary Poppins ou Alice qui va chercher derrière le miroir. Donc, c'était des personnages de fiction.
Mais déjà une certaine curiosité avec Alice. La femme que vous admirez aujourd'hui ?
Alors la femme que j'admire aujourd'hui, c'est Marguerite Barankitse, qu'on appelle aussi l'ange du Burundi. Et c'est une femme qui a su pardonner et elle a su construire des dispensaires pour deux communautés, les Tutsis et les Hutus, parce que le vivant en elle était tellement présent, et elle a transformé tous les meurtres auxquels elle a assisté en quelque chose de vivant. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment exceptionnel.
Justement, c'est quoi une femme d'exception, selon vous ?
Alors, une femme d'exception, c'est toutes ces femmes anonymes qui ont permis à beaucoup d'autres d'être une femme d'exception en transmettant leur combat, en donnant envie de continuer à leur manière. Et dans ma vie, j'ai rencontré énormément. Ça peut être des professeurs à l'école, ça peut être... et toutes ces femmes restent anonymes, mais elles permettent à d'autres de faire des combats et d'aller jusqu'au bout.
Et on essaye de les faire connaître dans cette émission. Oui. Merci Elisabeth Royer-Grimblat de nous avoir parlé d'autres passions ce matin sur France Info. Vous pouvez retrouver cet entretien sur franceinfo.fr à la page des femmes d'exception.